Histoire de la réformation du XVIe siècle, livre 11, chapitre 14. Conférences à Bâle, à Berne, à Saint-Gall, en d'autres lieux. Diète à Zurich. Les petits cantons. Menaces à Berne. Secours étrangers. Mais cette fameuse conférence, due au zèle des oligarques et du clergé, devait devenir funeste à tous deux. Ceux qui y avaient combattu pour l'Évangile devaient, en retournant dans leur foyer, remplir leurs concitoyens d'enthousiasme pour la cause qu'ils avaient défendue. Et deux des plus importants cantons de l'Alliance helvétique, Berne et Bâle, devaient commencer dès lors à se détacher de la papauté. C'est sur Oecolampade, étranger à la Suisse, que devaient tomber les premiers coups, et ce n'était pas sans quelque crainte qu'il retournait à Bâle. Mais ses inquiétudes furent bientôt dissipées. La douceur de ses paroles avait frappé les témoins impartiaux, plus que les clameurs du docteur Eck, et il fut reçu aux acclamations de tous les hommes pieux. Les adversaires firent, il est vrai, tous leurs efforts pour qu'on le chassât des chairs, mais en vain. Il enseignait et prêchait avec plus de force qu'auparavant, et jamais le peuple n'avait montré une telle soif de la parole. Des choses à peu près semblables se passaient à Berne. La conférence de Bade, qui avait dû étouffer la réforme, lui donnait un nouvel élan dans ce canton, le plus puissant de toute la Ligue des Suisses. À peine Haller était-il arrivé dans la capitale, que le petit conseil l'avait cité devant lui et lui avait ordonné de célébrer la messe. Haller demanda à répondre devant le grand conseil, et le peuple, croyant qu'il devait défendre son pasteur, accourut. Haller, effrayé, déclara qu'il aimait mieux quitter la ville que d'y causer quelque désordre. Alors, le calme s'étant rétabli, « Si l'on exige, dit le réformateur, que je célèbre cette cérémonie, je résigne ma charge. L'honneur de Dieu et la vérité de sa sainte parole me tiennent plus à cœur que le souci de savoir ce que je mangerai ou de quoi je serai vêtu. » Haller prononçait ces paroles avec émotion. Les membres du conseil étaient touchés. Quelques-uns même de ses adversaires fondaient en larmes. La modération était encore une fois plus forte que la force elle-même. Pour donner à Rome quelque satisfaction, on ôta à Haller les fonctions de chanoine, mais on l'établit prédicateur. Ses plus violents ennemis, Louis et Antoine de Diespard et Antoine d'Erlach, indignés de cette résolution, quittèrent aussitôt le conseil et la ville, et renoncèrent à leurs droits de bourgeoisie. « Berne a fait une chute, dit Haller, mais s'est relevé avec plus de force que jamais. » Cette fermeté des Bernois fit une grande impression en Suisse. Mais les suites de la conférence de Bade ne se bornèrent pas à Berne et à Bâle. En même temps que ces choses se passaient dans ces villes puissantes, un mouvement plus ou moins semblable s'opérait dans plusieurs des États de la Confédération. Les prédicateurs de Saint-Gall, revenus de Bade, y annonçaient l'Évangile. À la suite d'une conférence, on enlevait les images de l'église paroissiale de Saint-Laurent, et les habitants vendaient leurs habits précieux, leurs joyaux, leurs bagues, leurs chaînes d'or, pour fonder des maisons de charité. La réformation dépouillait, mais pour revêtir les pauvres, et les dépouilles étaient celles des réformés eux-mêmes. À Mulhouse, on prêchait avec un nouveau courage. La Turgovie et le Rheintal se rapprochaient toujours plus de Zurich. Immédiatement après la dispute, Zurzach enleva les images de ses églises, et presque partout le district de Bade reçut l'Évangile. Rien de plus propre que de tels faits à prouver à quelle partie la victoire était vraiment demeurée. Aussi Zwingle, regardant tout autour de lui, rendait gloire à Dieu. « On nous attaque de beaucoup de manières, disait-il. Mais le Seigneur est plus fort, non seulement que les menaces, mais aussi que les guerres elles-mêmes. Il y a dans la ville et dans le canton de Zurich un accord admirable en faveur de l'Évangile. Nous surmonterons toutes choses par des prières faites avec foi. » peu après, s'adressant à Haller, Zwingle lui disait « Tout suit ici-bas sa destinée. Au rude vent du nord succède un souille plus doux. Après les jours brûlants de l'été, l'automne nous prodigue ses trésors. Et maintenant, après de durs combats, le Créateur de toutes choses, au service duquel nous sommes, nous ouvre le chemin pour pénétrer dans le camp de nos adversaires. Nous pouvons enfin accueillir la doctrine chrétienne, cette colombe si longtemps repoussée et qui ne cessait d'épier l'heure de son retour. Sois le Noé qui la reçoit et la sauve. » Cette année même, Zurich avait fait une importante acquisition. Conrad Pélican, gardien du couvent des franciscains à Bâle, professeur de théologie depuis l'âge de 24 ans, avait été appelé, par le zèle de Zwingle, comme professeur d'hébreu à Zurich. « Il y a longtemps, dit-il en y arrivant, que j'ai renoncé au pape et que je désire vivre pour Jésus-Christ. » Pélican devint, par ses talents exégétiques, l'un des ouvriers les plus utiles dans l'œuvre de la Réforme. Zurich, toujours exclu de la diète par les cantons romains, voulant profiler des dispositions meilleures qui se manifestaient chez quelques-uns des confédérés, convoqua au commencement de 1527 une diète à Zurich même. Les députés de Berne, de Bâle, de Schaffhouse, d'Appenzell et de Saint-Gall s'y rendirent. « Nous voulons, dirent les députés de Zurich, que la parole de Dieu qui nous conduit uniquement à Jésus-Christ crucifié soit seule prêchée, seule enseignée, seule magnifiée. Nous abandonnons toutes les doctrines humaines, quel qu'ait été l'usage antique de nos pères. Certains que s'ils avaient eu cette lumière de la parole divine dont nous jouissons, ils l'eussent embrassée avec plus de respect que nous, leurs faibles neveux. » Les députés présents promirent de prendre en considération les représentations de Zurich. Ainsi la brèche faite à Rome s'agrandissait chaque jour. La dispute de Bade avait dû tout réparer, et dès lors, au contraire, des cantons incertains semblaient vouloir marcher avec Zurich. Déjà les peuples de la plaine penchaient pour la réformation. Déjà elles serraient de près les montagnes, elles les envahissaient, et les cantons primitifs, qui furent comme le berceau et qui sont comme la citadelle de la Suisse, semblaient, serrés dans leurs hautes Alpes, tenir seuls encore, avec fermeté, pour la doctrine de leur père. Ces montagnards, exposés sans cesse aux grandes tempêtes, aux avalanches, aux débordements des torrents et des fleuves, doivent lutter toute leur vie contre ces redoutables ennemis, et tout sacrifier pour conserver la prairie où paissent leurs troupeaux, la cabane où ils se mettent à l'abri des orages et que la première inondation emporte. Aussi l'instinct conservateur est-il fortement développé en eux et se transmet-il depuis des siècles de génération en génération. Conserver ce qu'on a reçu de ses pères et toute la sagesse de ses montagnes. Ces rudes Helvétiens luttaient donc alors contre la Réformation qui voulait changer leur foi et leur culte, comme ils luttent encore à cette heure contre les torrents qui tombent avec fracas de leur sommité neigeuse, ou contre les nouvelles idées politiques qui se sont établies à leurs portes, dans les cantons qui les entourent. Ils seront les derniers qui mettront bas les armes devant la double puissance qui déjà élève ses signaux sur toutes les collines environnantes et menace toujours de plus près ses peuples conservateurs. Aussi ces cantons, à l'époque dont je parle, encore plus irrités contre Berne et contre Zurich, et tremblant de voir cet état puissant leur échapper, réunirent-ils leurs députés à Berne même, 8 jours après la conférence de Zurich. Ils demandèrent au conseil de déposer les nouveaux docteurs, de proscrire leur doctrine et de maintenir l'antique et véritable foi chrétienne, telle qu'elle avait été confirmée par les siècles et confessée par les martyrs. « Convoquez tous les bailliages du canton, ajoutèrent-ils. Si vous vous y refusez, nous nous en chargerons. » Les Bernois irrités répondirent « Nous avons assez de puissance pour parler nous-mêmes à nos ressortissants. » Cette réponse de Berne ne fit qu'accroître la colère des Wallstätten, et ces cantons qui avaient été le berceau de la liberté politique de la Suisse, effrayés des progrès que faisait la liberté religieuse, commencèrent à chercher, même au dehors, des alliés pour la détruire. Pour combattre les ennemis des capitulations, on pouvait bien s'appuyer des capitulations mêmes. Et si les oligarques de la Suisse ne pouvaient y suffire, n'était-il pas naturel de recourir aux princes, leurs alliés ? En effet, l'Autriche, qui n'avait pu maintenir sa puissance dans la Confédération, était prête à intervenir pour y affermir la puissance de Rome. Berne apprit avec effroi que Ferdinand, frère de Charles Quint, faisait des préparatifs contre Zurich et contre tous les adhérents de la Réforme. Les circonstances devenaient plus critiques. Une succession d'événements plus ou moins malheureux, les excès des anabaptistes, les disputes avec Luther sur la Seine, d'autres encore, semblaient avoir grandement compromis en Suisse la Réformation. La dispute de Bade avait trompé l'attente des amis de la papauté, et l'épée qu'ils avaient brandie contre leurs adversaires s'était brisée dans leurs mains. Mais le dépit et la colère n'avaient fait que s'accroître, et l'on se préparait à un nouvel effort. Déjà la puissance impériale elle-même commençait à s'émouvoir, et les bandes autrichiennes qui avaient dû s'enfuir des défilés de Morgarten et des hauteurs de Sempach étaient prêtes à rentrer dans la Suisse, enseigne déployée, pour y raffermir Rome chancelante. Le moment était décisif. On ne pouvait plus clocher des deux côtés et n'être ni trouble ni clair. Berne et d'autres cantons, si longtemps hésitants, devaient prendre une résolution. Il fallait retourner promptement à la papauté ou se ranger sous l'étendard de Christ avec un nouveau courage. Un homme venu de France, des montagnes du Dauphiné, nommé Guillaume Farel, donna alors à la Suisse une puissante impulsion. Décida la réforme de l'Helvétie romane, qui dormait encore d'un profond sommeil, et fit ainsi pencher la balance dans toute la Confédération en faveur des nouvelles doctrines. Farel arriva sur le champ de bataille comme ces troupes fraîches qui, au moment où le sort des armes est encore incertain, se précipitent au fort de la mêlée et décident la victoire. Il prépara les voies en Suisse à un autre Français, dont la foi austère et le puissant génie devaient mettre la dernière main à la réforme et la rendre une œuvre accomplie. La France prenait ainsi rang, par ses hommes illustres, dans cette grande commotion qui agitait la société chrétienne. Il est temps que nos regards se tournent vers elle.